Après une rentrée de septembre marquée par la place et la reconnaissance accordée aux autrices, Goncourt pour Brigitte Giraud, Femina pour Claudie Hunzinger, sans compter évidemment le Nobel d'Annie Ernaux, on pouvait se poser la question de savoir si ce phénomène relevait d'un effet de mode ou d'une tendance durable. L'actualité de ces dernières semaines, de janvier, confirme que oui, décidément, femmes et problématiques féministes sont toujours d'actualité au croisement des thématiques, comme personnage par ailleurs, comme autrice et personnage en même temps, et même comme critique. Avec une Lionel Shriver, par exemple, en une du Libé du samedi 28 janvier, toujours en colère, et une Natasha Brown qui ouvre le cahier du livre du Monde, le 3 février, on trouve encore des femmes en une. En réalité, il ne s'agit pas de problèmes liés seulement aux femmes, il y a un parfum d'intersectionnalité, comme on dit là-dedans, voire, pour reprendre l'épouvantail langagier de ces derniers temps, un peu de wokisme. Bon, le wokisme de Lionel Shriver, par exemple, est un peu spécial. Prénom masculin Lionel sans homosexualité revendiquée, attachement à l'Irlande, mais auteur pro-Brexit, elle semble difficile à suivre si ce n'est que le nord de sa boussole, c'est la colère. La dernière fois contre les exercices physiques pour rester en forme, ici la colère contre la vieillesse qui consiste, je cite, à se vandaliser soi-même. Elle étrit, nous dit Thomas Stenandre, dans ses dialogues ping-pong, le business de la fin de vie, la dégradation des services publics et l'absurdité de la course à l'éternelle jeunesse. Même si elle reconnaît qu'elle s'est amusée en l'écrivant, elle ne cache pas sa colère. Natasha Brand remplit davantage le cahier des charges de l'auteur woke. Son héroïne, qui partage une majorité de traits avec elle, est une jeune femme jamaïcaine d'origine dans la bourgeoisie britannique qui réussit dans le milieu de la banque, possède penthouse et petite amie, justement grand bourgeois britannique. Ces deux derniers éléments n'étant pas avérés dans le cas de l'autrice. L'autrice, pour sa part, raconte comment, atteinte d'un cancer du sein, son héroïne décide de ne pas se faire opérer et comment elle s'absente d'une garden party de la grande bourgeoisie londonienne pour regarder à l'écart ce petit monde s'agiter. Petit monde auquel elle n'accorde aucun crédit en matière de mixité sociale. Si la femme au centre de cette histoire décide de se sacrifier, c'est parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de véritable issue pour elle dans ce monde étroit et qu'elle applique une forme de solidarité avec les autres femmes noires, les travailleuses qui n'ont pas accès comme elle au dépistage et au bon médecin. Pour ce qui est des femmes personnages, il y en a beaucoup, et c'est du côté de la disparition que l'on s'oriente, notamment avec le livre d'Hélène Frappa sur la succession des actrices qui s'effacent, soit trois générations, de Tippi Hedren, l'actrice des oiseaux de Hitchcock qui a tenté de la violer, à Dakota Johnson, sa petite fille, en passant par Melanie Griffith. Même si tout le monde souligne parfois les limites du bien fondé de ces disparitions et la posture de l'auteur en détective, tous s'accordent également pour reconnaître l'exploitation et même la sexploitation du monde cinématographique. En outre, si la figure de Virginia Woolf hante l'ensemble de cette production, elle ressort plus nettement dans le livre que Laura Ulonati consacre à sa sœur et rivale Vanessa Bell et dont le titre W réunit les destins, celui de Virginia et de Vanessa. Vanessa est ce qui reste lorsque mère, père et demi-sœur meurent la même année, mais elle ne parviendra jamais à conquérir une place d'artiste, elle qui peignait tandis que sa sœur écrivait, comme nous le résume Alice Develay par exemple dans le Figaro littéraire, mais il y a beaucoup d'articles autour de ce livre. Beaucoup d'autres figures traversent ce début d'année, dont les tutélaires Colette en Pléiade et Sylvia Plath qui ont conquis depuis longtemps leur place dans le monde des lettres. La dernière en date est une critique qui prétend quant à elle renouveler le regard sur ce fameux monde des lettres. Jennifer Tamas, qui enseigne la littérature française aux USA, propose en effet une relecture des classiques à l'aune non pas du féminisme caricatural, mais d'un véritable regard féminin. Entendons-nous bien, quand nous disons classique, il s'agit bien d'œuvres du siècle classique. Pour elle, les faiblesses imputées aux femmes du grand siècle sont leurs forces. Andromaque est une résistante et non une victime. La princesse de Clèves, une femme qui choisit d'échapper à une galanterie, du harcèlement et presque du viol. La question de Cécile Domas, n'y a-t-il pas un risque de révisionnisme, une forme d'anachronisme à relire les classiques à l'aune des enjeux émancipateurs contemporains, reçoit cette réponse. Proust défend l'idée qu'un texte n'est rien sans son lecteur ou sa lectrice, que les recevoir avec sa personnalité et son époque peut être intéressant. Remettre au goût du jour les classiques fait partie de la question de leur réception. Quand un texte est publié, il y a toujours plusieurs façons de le comprendre, par exemple lorsqu'on joue pour la première fois en 1670 Bérénice de Racine, un homme lettré comme Bussy Rabutin y voit une tragédie de la lâcheté, Titus ne serait plus amoureux. Cette interprétation perdure chez Barthes et se retrouve sous la plume de Nathalie Azoulay qui écrit « Titus n'aimait pas Bérénice », nous dit l'auteur au passage. Hein. Titus n'aimait pas Bérénice, c'est P.O.L. Prix Médicis 2015. C'est ce regard qui chemine jusqu'à nous alors qu'un autre point de vue existe, souligne Jennifer Tamas. Et c'est Louis Racine qui expliquera que le personnage écrit par son père incarne la grandeur d'âme, contrairement aux hommes de la pièce, et que la princesse de Clèves est aussi une femme forte. Gageons qu'il ne s'agit ici que d'une partie de cette actualité, et que la présence de cette femme est, cette fois, bien ancrée dans la vie littéraire. À la semaine prochaine, et au revoir.